France Culture.
Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Notre pronostic vital est engagé, affirme François Bayrou devant les députés. Le Premier ministre parlait de l'endettement qui menace la France, mais c'est son bail à Matignon qui va sans doute s'interrompre ce soir à l'issue du vote de confiance. Les oppositions ont confirmé leur intention de renverser le gouvernement. Page spéciale dans ce journal avec Rosalie Lafarge et Adrien Toffolé en direct du Palais Bourbon. Le gouvernement, avant sa chute quasi certaine, annonce un bonus supplémentaire de 1000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique, à condition que ce véhicule soit équipé d'une batterie fabriquée en Europe. Nous verrons cela avec Hakim Kasmi. 6 morts à Jérusalem-Est dans l'un des attentats les plus meurtriers en Israël depuis le 7 octobre 2023. Attentat aussitôt salué par le Hamas. En Argentine, un revers électoral inquiétant pour Javier Milei avant les législatives de la fin octobre. Les candidats du président ultralibéral ont été largement battus par la gauche aux élections provinciales à Buenos Aires. François Bayrou va-t-il devenir ce soir le premier locataire de Matignon renversé sur la question de confiance dans l'histoire de la Ve République ? Le Premier ministre sera fixé sur son sort dans la soirée. Il a prononcé tout à l'heure devant l'Assemblée un discours de politique générale aux accents fatalistes, car François Bayrou sait qu'il lui faudrait un miracle pour rester en poste. On retrouve à l'Assemblée Rosalie Lafarge. Bonsoir.
Bonsoir.
Rosalie, le Premier ministre a une fois de plus appelé à la responsabilité sans non plus se faire d'illusions.
Il sait bien, François Bayrou, que c'est fini et ça se sent. D'ailleurs, dans l'hémicycle, on l'interrompt assez peu. Le Premier ministre pâle le brouhaha des séances les plus chaotiques. À peine quelques interpellations dont il choisit de sourire.
Si vous criez, je bois. Donc c'est une bonne chose.
Les crises sont assez rares, les verres d'eau aussi. François Bayrou déroule ses arguments habituels. Le poids de la dette, les enjeux pour les jeunes, notamment le côté aberrant du constat qu'il dresse depuis des années et qu'il martèle depuis des semaines.
Notre pays travaille, croit s'enrichir et tous les ans s'appauvrit un peu plus. C'est une silencieuse, souterraine, invisible et insupportable hémorragie.
Il en est convaincu, le chef du gouvernement. Tout le monde ici partage ce constat. Tout le monde sait qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et pourtant, personne ne veut sortir des postures, accuse François Bayrou.
Les uns disent, et ne croyez pas que j'ignore l'efficacité du discours, ce sont les immigrés qu'il faut mettre à contribution. Ce sont les étrangers qui sont la cause de tout. C'est auprès de cela que nous gaspillons notre argent et qu'il faut taper dans la caisse. Ou bien, autre discours, ce sont les riches qu'il faut faire payer.
Les uns et les autres, ceux qui ont prévu de faire tomber son gouvernement à l'extrême droite, à droite, à gauche, alliance des contraires, pointe encore le Premier ministre.
C'est un tohu-bohu qui se prépare pour la France.
Et ça ne résoudra rien, poursuit François Bayrou. Vous n'avez pas le pouvoir d'effacer le réel, lance-t-il aux députés, avant de les appeler une ultime fois à la responsabilité.
Les mots d'ordre n'ont pas leur place ici. Ce qui a sa place ici, c'est la conscience personnelle de chacun des députés de la nation.
Ça ne suffira certainement pas. Son pari, François Bayrou l'a perdu à peu près dès qu'il a choisi de le faire, mais il assure ne pas avoir de regrets.
Rosalie Lafarge avec les moyens techniques d'Alexandre Abergel. Après ce discours de politique générale de François Bayrou, les chefs des 11 groupes parlementaires de l'Assemblée ont commencé à s'exprimer. Et sans surprise, la tendance est mauvaise pour le Premier ministre. On retourne au Palais Bourbon pour retrouver cette fois Adrien Toffolé. Bonsoir.
Bonsoir.
Adrien, les oppositions n'ont pas ménagé François Bayrou.
Oui, à commencer par Boris Vallaud, le patron des socialistes à l'Assemblée, fort d'une alternative crédible présentée ces derniers jours et encore une fois aujourd'hui, et qui a fait cet après-midi le procès de son irresponsabilité.
Ce vote auquel vous vous soumettez n'est pas un acte de courage, c'est une dérobade. Que dis-je ? C'est une pantanolade. Face à l'adversité, vous vous résignez. Face à la difficulté, vous reculez. Face à la responsabilité, aujourd'hui, vous vous effacez.
Il ne pouvait pas y avoir de chèque en blanc, a plaidé quant à lui Laurent Wauquiez, le président du groupe Les Républicains, dont les députés sont divisés sur le soutien à apporter au gouvernement, parce que François n'a pas été assez loin dans les économies proposées.
Vous m'aviez dit que vous étiez prêt à entendre la parole et à clarifier la position. Cette parole, nous l'avons attendue et nous ne l'avons jamais entendue. Et je le regrette, je vous le dis avec la même franchise. Parce que si vous aviez écouté la France qui travaille, vous auriez aujourd'hui le soutien unanime de des députés de la droite républicaine. On ne vous demandait pas de vous renier. Je ne vous demandais pas moins d'économie, mais plus d'économie. Vous avez fait un choix. Je le respecte. mais je ne demande jamais aux députés de mon groupe de voter contre leur conscience.
Côté LR donc, sur les 49 députés du groupe, près de la moitié pourraient voter contre ou s'abstenir. Mais le sujet n'est déjà plus François Bayrou pour toutes les oppositions, mais l'après, et pour Marine Le Pen, la chef de file des députés du Rassemblement National, c'est à Emmanuel Macron de prendre maintenant ses responsabilités.
À l'issue du vote, Monsieur Macron doit au moins une fois se résoudre à sortir de son rôle de chef de la majorité pour enfin assumer, si toutefois il en est capable, son rôle de président de la République. En ces circonstances, le président n'a qu'une possibilité, convoquer de nouvelles élections et laisser le pays choisir, et s'il le décide, de choisir une majorité d'alternance.
Une dissolution, donc, seule façon à ses yeux de débloquer le pays, à deux jours d'une mobilisation populaire qui entend peser sur le chef de l'État par le blocage, justement.
Adrien Toffolé en direct de l'Assemblée, toujours avec les moyens techniques d'Alexandra Bergel. Nous referons le point à 19h sur cette séance décisive pour François Bayrou, qui pourrait être contraint de remettre sa démission dans les prochaines heures, peut-être dès demain matin. Le Rassemblement National, qui espère bien profiter de cette séquence politique pour arriver à Matignon à la faveur d'une éventuelle dissolution de l'Assemblée et préparer la présidentielle de 2027. En attendant, le RN doit tenir compte du calendrier judiciaire de Marine Le Pen. Dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National, la patronne des députés RN sera jugée en appel du 13 janvier au 12 février 2026. Un procès crucial pour celle qui est aujourd'hui inéligible après sa condamnation pour détournement de fonds publics au détriment du Parlement européen. Outre Marine Le Pen, seront rejugés le Rassemblement National en tant que personne morale et 11 autres personnes. Florence Turm a assisté à l'audience de la Cour d'appel de Paris qui a fixé ce calendrier judiciaire.
Le parquet général explique avoir retenu la date du 13 janvier pour tenir compte du temps nécessaire aux délibérés, 4 mois en première instance, avec la volonté de rester à distance de l'échéance présidentielle. L'audience se déroulera en revanche juste avant les municipales, ce qui ne fait pas non plus le bonheur de la défense, mais ne pose aucun problème à l'avocat du Parlement européen, parti civil dans ce dossier, Patrick Maisonneuve.
Aucun texte de loi ne vient dire qu'il faudrait qu'il y ait une suspension des poursuites ou des jugements ou des audiences alors qu'il y a des échéances politiques. Ça n'existe pas. On a créé un sort procédural très spécifique pour Marine Le Pen. Ils ont voulu l'accélérer. Je vois pourquoi aujourd'hui ils viendraient s'en plaindre.
Certains prévenus sont candidats aux municipales, comme Louis Alliot à Perpignan, et la campagne aura largement débuté, insiste Rodolphe Bosselu, l'avocat de Marine Le Pen.
Qu'il y ait une décision définitive avant les présidentielles est évidemment une chose très importante, ça n'est pas la question. La question, c'est que cette exigence ne doit pas non plus entraîner un deuxième préjudice, de venir perturber des élections municipales qui ne pourront pas se dérouler dans la sérénité, puisque chaque jour, nous aurons des comptes rendus judiciaires et que chaque jour, dans toute ville de France où se présenteront des candidats du RN, eh bien, ces comptes rendus judiciaires seront l'occasion, j'imagine, de débats qui vont excéder l'intérêt même des municipalités, l'intérêt même de la campagne municipale.
Pour l'anecdote, Rodolphe Bosselu figure lui-même sur une liste à Font-Romeu, mais la présidente prend acte, le procès débutera bien le 13 janvier, 5 semaines de débats en perspective.
Le reportage de Florence Turm au Palais de Justice de Paris. Même sur le départ, le gouvernement continue à prendre des décisions. Illustration ce matin avec l'annonce d'un bonus supplémentaire de 1000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique à condition que la voiture soit équipée d'une batterie fabriquée en Europe. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir, Stanislas Vazak.
Le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, veut envoyer un signal fort aux constructeurs automobiles pour qu'ils s'approvisionnent dans les usines européennes. Pari difficile face à la concurrence chinoise, Hakim.
Oui, actuellement, 90% des voitures électriques dans le monde, y compris en France, ont des batteries qui viennent d'Asie et plus particulièrement de Chine. Alors, si les Européens commencent à produire leurs propres batteries, avec un marché de la voiture électrique qui peine et qui reste toujours à 17% dans l'Hexagone, les fabricants européens comme ACC, qui fournit en batterie le groupe Stellantis, qui détient notamment Peugeot et Citroën, a du mal à monter en cadence et être compétitif avec des coûts de production qui peuvent aller jusqu'au double par rapport à leurs concurrents chinois, comme l'explique Flavien Neuvy, économiste et directeur de l'Observatoire CTLM.
Il faut rappeler que la batterie dans une voiture électrique, ça représente 30 à 40% du coût final. Donc les coûts de production de la batterie et le coût final de la batterie électrique est effectivement déterminant pour le prix de vente de la voiture. Et on sait que la voiture électrique est encore trop chère par rapport à son équivalent thermique. Et donc évidemment, le coût de la batterie, c'est un enjeu qui est considérable. Et de ce point de vue-là, on peut dire que les Chinois ont pris de l'avance par rapport aux Européens. Donc malgré les droits de douane, malgré éventuellement un bonus, on sait très bien que la compétition va être rude au cours des prochaines années. Il faut aussi que l'industrie européenne monte en puissance sur la production des batteries pour pouvoir faire baisser les coûts de production. Mais tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et pendant ce temps, effectivement, c'est plutôt les fabricants chinois qui remportent la mise.
De son côté, le ministère de l'Industrie, qui va financer ce bonus grâce au certificat d'énergie, ce qui va représenter plusieurs dizaines de millions d'euros, estime que la mesure concernera cette année environ 15 000 voitures électriques et il espère atteindre l'année prochaine les 70 000 véhicules.
Hakim Kasmi, merci. Une mauvaise publicité pour le Crédit Agricole. Cassib, l'une des filiales de la banque, a accepté aujourd'hui de payer à la justice une amende de 88 millions d'euros. En échange, le parquet national financier abandonne les poursuites dans l'affaire dite Kumkum, un mécanisme de fraude fiscale qui secoue le milieu bancaire français depuis 2018. Camille Magnard, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Le Crédit Agricole n'est pas la seule banque française impliquée dans cette affaire. Dans cette affaire, il y en a cinq autres, mais elle est la première à conclure un accord pour obtenir l'abandon des poursuites judiciaires.
Oui, un accord qui reconnaît les faits de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée. Même si Cassib, la filiale en cause du Crédit Agricole, se défend d'avoir mis en cause un système visant à inciter ses clients étrangers à lui confier temporairement leurs actions dans des entreprises françaises pour ne pas avoir à payer la taxe sur les dividendes. Car c'est bien ça le principe du scandale Kumkum et il a fait perdre à l'État entre 1,5 et 3 milliards d'euros de recettes fiscales chaque année. Et c'est vrai que dans cette affaire, Cassib a très vite pris le parti de coopérer avec la justice, alors que les autres banques mises en cause font toujours front dans la dénégation. La Société Générale, BNP Paribas et sa filiale Exane, Natixis et HSBC France, toutes soupçonnées d'avoir bien plus profité que le Crédit Agricole de ces arbitrages de dividendes, de cette fraude fiscale. Les cinq, donc, se retrouvent à présent mises sous pression par l'accord passé entre le Crédit Agricole et le tribunal judiciaire de Paris, lequel insiste bien sur le fait que la banque, en coopérant, a obtenu des circonstances atténuantes et une ristourne en quelque sorte sur le montant des amendes à payer, 88 millions d'euros tout de même. Manière de rappeler à celles qui persistent à ne pas reconnaître leur tort qu'elles risquent in fine des peines beaucoup plus lourdes au terme d'un procès public qui va forcément nuire à leur image de marque.
Explication signée Camille Magnard. Le mouvement Bloquons tout qui doit débuter ce mercredi 10 septembre aura des conséquences à la SNCF. La compagnie prévoit un trafic perturbé sur les trains régionaux et les RER qu'elle gère en Île-de-France. Perturbation également sur certaines lignes intercités et TER. En revanche, les TGV Inouï, Ouigo et internationaux circuleront normalement, précise la SNCF. À Paris, le trafic sera quasi normal dans le métro et les bus, indique cette fois la RATP. Le bilan de l'attentat perpétré ce matin à Jérusalem-Est s'est encore alourdi. 6 morts et 8 blessés, dont 5 graves, après l'attaque d'une station d'autobus dans le secteur de la ville sainte annexée par Israël. Les assaillants ont été abattus. Le Hamas a rapidement salué l'attaque en affirmant que ses auteurs étaient palestiniens. La milice islamiste parle, je cite, d'une réponse naturelle aux crimes de l'occupation et au génocide. Fin de citation. Il s'agit de l'un des attentats anti-israéliens les plus meurtriers depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023. Notre correspondant à Jérusalem, Thibault Lefebvre, s'est rendu sur les lieux.
Oui, à cette intersection près du quartier de Ramot, un carrefour de circulation important et très embouteillé le matin au nord de Jérusalem. Il y avait du verre par terre à la mi-journée, encore des secouristes et le bus qui a été ciblé était garé sur le bas-côté avec 4 impacts de balles sur le pare-brise du véhicule. Moshe est arrivé quelques minutes après le drame.
Ils ont emmené les corps de deux personnes mortes sur le bitume. Il y avait beaucoup de policiers qui interrogeaient les gens présents.
Une heure plus tard, Benjamin Netanyahou et son ministre de l'Intérieur se sont rendus sur place. Le Premier ministre a déclaré que la guerre continuait et que Jérusalem aussi était concernée. Un sentiment partagé par Raïm, un autre témoin.
Je pense que le but est d'augmenter le niveau de peur et de terreur contre Israël, pour qu'Israël se sente davantage vulnérable. Iran. Et je pense qu'à l'inverse, nous devons être plus forts, plus déterminés, et nous devons renforcer notre souveraineté à l'intérieur de Jérusalem.
Emmanuel Macron a condamné l'attaque. Le président français a affirmé dans un message sur le réseau social X que seule une solution politique permettra à la spirale de violence de prendre fin.
Voilà pour ce reportage à Jérusalem-Est de Thibault Lefebvre. Israël qui a adressé aujourd'hui un dernier avertissement au Hamas. La milice est sommée de libérer les derniers otages retenus à Gaza et de déposer les armes. Sinon, Gaza sera détruite et vous serez anéantis. Déclaration d'Israël Katz, le ministre israélien de la Défense, qui qualifie les hommes du Hamas d'assassins et de violeurs. Ce week-end, c'est le président américain Donald Trump qui avait lancé un ultime avertissement à la milice. En Argentine, les marchés financiers sont en très net recul ce soir après la défaite électorale de Javier Milei dans la province de Buenos Aires. Les candidats soutenus par le président ultralibéral ont été largement battus par ceux du gouverneur de gauche de la province, le péroniste Axel Kicillof, 47% contre 33%. Un mauvais signe pour Javier Milei avant les élections législatives prévues le 26 octobre prochain. Caroline Vic nous appelle de Buenos Aires.
Euphorie hier soir au QG de la gauche. Axel Kicillof, le gouverneur de la province, remercie ses électeurs. Grande victoire pour le péronisme de gauche, mais surtout énorme défaite pour Milei. Le malaise des Argentins est réel, comme l'exprime Sylvia, retraitée vivant dans la banlieue de Buenos Aires.
Je prends souvent le bus et je vois la détérioration des gens qui vont travailler, leurs vêtements et leur alimentation. Je vois beaucoup plus de gens dans la rue qui font la manche. Le niveau culturel a aussi beaucoup baissé car il n'y a plus d'investissement dans la culture ni dans les travaux publics. La discrimination envers les retraités et les handicapés m'attriste beaucoup aussi, tout comme les coupes budgétaires dans l'éducation et la santé. Donc je suis contente du résultat de l'élection. J'espère que les choses vont pouvoir changer.
Crise sociale, économique et culturelle dans la province de Buenos Aires, où se trouve la plus grande concentration de personnes pauvres du pays. Pablo Levington, économiste.
Les politiques menées par le gouvernement ne vont pas dans le sens de ce qu'attend la population, avec l'augmentation du taux de chômage, les agressions envers les plus vulnérables, la précarisation du travail des plus pauvres. Sans oublier la politique macroéconomique qui se dirige vers un démantèlement de toute notre structure monétaire.
Lors de son discours hier, Milei a reconnu la défaite et a promis qu'il ferait une autocritique avant d'affirmer pourtant qu'il ne changerait rien dans son programme d'ici aux élections législatives prévues fin octobre.
Caroline Vic, correspondante de France Culture en Argentine. Un Français est actuellement détenu en Russie, dans la région de Vladivostok, l'extrême-orient russe sur la côte pacifique. Le Quai d'Orsay ne confirme pas son identité, mais selon le journal Le Monde, il s'agirait de Sofiane Seili, un champion d'ultracyclisme, spécialiste des très longues distances à vélo. Il aurait été interpellé la semaine dernière par les gardes-frontières russes alors qu'il tentait d'entrer en Russie pour boucler un périple à travers l'Europe et l'Asie. Sa situation reste très floue ce soir, comme nous l'explique notre correspondant à Moscou, Sylvain Tronchet.
À cette heure, les gardes-frontières de Vladivostok ne confirment pas l'arrestation de Sofiane Seili. Il y a bien eu une affaire avec un Français, mais il est libre, affirment les autorités. Sans plus de détails, la diplomatie française, elle, parle de placement en détention. Ce qui semble certain, c'est que Sofiane Seili tentait de franchir la frontière entre la Chine et la Russie pour boucler son périple de Lisbonne à Vladivostok. D'après une vidéo qu'il a postée sur Instagram, il a été refoulé à un premier point de passage avant de retenter sa chance 200 km plus loin, manifestement tout près de la grande ville portuaire du Pacifique russe. Il n'avait apparemment pas de visa et aurait donc pu être arrêté pour entrée illégale sur le territoire russe. Sofiane Seili n'a plus posté de messages sur ses réseaux sociaux depuis 5 jours. On n'a aucune nouvelle de lui. L'ambassade de France à Moscou tente d'entrer en contact avec lui, ce qui peut prendre du temps dans le contexte diplomatique actuel et susciter quelques inquiétudes vu le sort réservé aux prisonniers occidentaux en Russie.
Rappelons qu'un autre Français, Laurent Vinatier, toujours détenu en Russie depuis juin 2024. Ce chercheur de 49 ans, déjà condamné à 3 ans de prison, est désormais accusé d'espionnage par la justice russe. Au Népal, au moins 16 personnes ont été tuées, 100 de blessés. Aujourd'hui, dans la capitale Katmandou, lorsque la police a dispersé une manifestation contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption du gouvernement népalais, des affrontements étaient toujours en cours en fin d'après-midi dans les rues de Katmandou, où la police tentait de disperser le dernier carré des protestataires. On termine ce journal avec un mot du temps. De nouvelles pluies orageuses vont circuler cette nuit du centre-est au nord-est avec des cumuls importants par endroits. Demain, un ciel toujours pluvieux des Alpes au Grand Est. Ailleurs, les nuages domineront, sauf sur les régions méditerranéennes où le soleil devrait s'imposer. Les températures minimales iront de 7 à 20 degrés du nord au sud. L'après-midi, il fera entre 18 et 30 degrés de la Bretagne à la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun. À la technique, il y avait Anthony Thomasson.